Chers frères et sœurs, qui parmi nous n'aimerait pas être en mesure de pouvoir parler toutes les langues du monde? Qui parmi nous n'aimerait pas savoir tout sur tout et avoir toujours 20 sur 20 pour les devoirs sur table? Qui parmi nous, et on peut associer bien sûr celles et ceux qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils apportent de l'affection et un petit déjeuner avec un café, qui parmi nous ne considérerait pas qu'il n'y a rien de plus beau que de distribuer tous ses biens pour les affamés? Et y aurait-il meilleur chrétien que celui dont la foi le rend capable de soulever le Pic Saint-Loup pour commencer? De ce point de vue, le chapitre 13 de la lettre de Paul aux Corinthiens nous donne de bons exemples d'attitudes qui manifestement sont nobles, mais qui en fait sont particulièrement contestables, et d'ailleurs contestées par l'apôtre Paul, et on pourrait même dire condamnables, si elles ne sont pas accompagnées d'amour, ou si elles ne sont pas accompagnées par l'amour. Ce qui est condamnable, ce ne sont pas les actions en soi. Paul ne va pas condamner le fait de donner ses biens aux affamés. Mais il me semble que ce que l'apôtre Paul condamne, ce ne sont pas tant les actions en soi, mais ce qu'elles traduisent, à savoir la séduction du totalitarisme. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on voit le totalitarisme dans cette affaire? Eh bien, précisément, dans le texte, il ne s'agit pas de parler cinq ou six langues, mais de parler toutes les langues. Il ne s'agit pas de donner une partie de son bien aux affamés, mais de donner tous ses biens. Et ce que l'apôtre Paul souligne, c'est qu'à chaque fois, c'est la totalité qui est en jeu. D'où l'idée du totalitarisme. Pourquoi est-ce que c'est condamnable? Parce que c'est un leurre, une illusion. Prenons le cas des langues. Parler toutes les langues des hommes et des anges, c'est donc parler la totalité des langues possibles. Parler, c'est une chose, mais savoir, c'en est une autre. Et il est justement après question de la science de tous les mystères. Il est question d'avoir toute la foi. Qu'est-ce que peut bien signifier avoir toute la foi? Et puis il est question de distribuer tous ses biens. Dans ces différents exemples, l'accent est mis sur la totalité, sur la prétention à posséder la totalité, à détenir la totalité d'un domaine. C'est un peu comme si les parents considéraient que leurs enfants sont totalement leurs enfants. Or, nous l'avons entendu, votre fille, vos enfants ne sont pas vos enfants. Il y a là une sorte de sagesse qui va à l'encontre de ce désir de tout posséder. Et à chaque fois, l'apôtre Paul récuse le totalitarisme qui, selon lui, mène à rien. Il souligne ce paradoxe, celui qui veut tout avoir, au bout du compte, n'a rien ou n'est rien. Ce que Paul nous dit, c'est que la finalité du totalitarisme, ce n'est pas autre chose que l'anéantissement, le non-être. On pense avoir tout et en fait, on n'a rien, on n'est plus rien. Et toujours selon l'apôtre Paul, ce qui nous sauve de cela, ce qui nous sauve à la fois de la tentation du totalitarisme et du risque d'anéantissement, c'est l'amour. C'est l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour qui trouve sa source en Dieu, pour le dire avec un langage croyant, non pas l'amour dont nous sommes spontanément capables lorsque nous voyons une belle tarte aux fraises, mais cet amour divin dont l'apôtre va donner quelques caractéristiques majeures par la suite. Et c'est cette opposition entre le totalitarisme et l'amour que j'aimerais souligner ce matin. Pour cela, j'aimerais observer une première opposition. C'est que la totalité fige en l'état, alors que l'amour nous porte vers l'infini. On peut avoir ce désir de totalité, on peut ce désir de tout avoir, de tout posséder, ou de maîtriser totalement son sujet. Est-ce que ce serait une bonne chose? On peut s'interroger avec un exemple tiré de la connaissance des langues. Commençons déjà par imaginer ce que cela signifierait de maîtriser totalement ne serait-ce qu'une seule langue. Et pour cela, je prends l'exemple de Mircea Eliade, un très grand universitaire, spécialiste en histoire des religions. Comme il était un peu doué, cet homme, et qu'il décide d'aller étudier l'Inde, eh bien il se dit « je vais commencer par apprendre la langue ». Et donc, il va à la bibliothèque, prend tous les manuels possibles et imaginables, il apprend la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, et certainement, il en sait plus que la plupart des habitants de l'Inde. Il arrive en Inde, et là, il ne comprend personne, et il ne se fait comprendre de personne. Il a été tout simplement incapable de pouvoir communiquer par cette science qu'il avait acquise. La langue des livres n'était pas la langue parlée. Ceci dit, que nous pouvons avoir l'illusion de posséder un sujet. Nous pouvons avoir l'illusion de prétendre savoir une langue. Mais ce n'est qu'une illusion, parce que la langue, dans la mesure où elle est vivante, ne cesse de changer. Elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de se métamorphoser. Et donc savoir une langue au sens strict du terme, la posséder, la maîtriser, ne peut s'appliquer qu'à une langue morte, dont la grammaire est figée, dont le vocabulaire est figé, dont la syntaxe est figée, dont les expressions sont figées. Une langue qui n'évoluerait plus, qui ne changerait plus, que l'on pourrait donc savoir, est une langue morte. Et c'est là que l'amour fait la différence. Parce que l'amour, nous le sentons bien, c'est ce qui nous relie à l'autre. L'amour, c'est ce qui nous met en relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. L'amour, c'est ce qui nous porte vers notre interlocuteur. Et l'amour arrive à dépasser le fait que nous n'avons peut-être pas la même langue. Ou nous parlons le français, mais les mots n'ont pas toujours le même sens. Eh bien, l'amour permet de rejoindre l'autre dans son univers intérieur, dans sa propre culture, dans sa propre langue. Et après tout, Louise, par exemple, n'est pas encore vraiment passé maître dans l'art de conjuguer ou dans l'art de mettre correctement l'indicatif après la locution, après que. Ce n'est pas le subjonctif. Et bien cela m'empêche que j'ai pu comprendre que vous arriviez à communiquer avec elle. En vertu de l'amour, qui, par-delà les différences, par-delà les incompréhensions au départ, permettre de rejoindre l'autre dans son désir, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il éprouve, dans ce qu'il souhaite communiquer. L'amour fait la différence. L'amour nous permet de rejoindre notre interlocuteur et de le prendre au sérieux, de ne pas abandonner la relation au prétexte que nous ne nous serions pas très bien compris au départ. L'amour nous permet de découvrir ce qu'il a à nous dire. L'amour nous permet de découvrir chez l'autre aussi ce qui n'appartient qu'à lui. Au lieu de se contenter d'essayer de reconnaître chez l'autre ce que nous connaissons déjà. L'amour, c'est ce qui nous permet de partir à l'exploration de l'autre. Si nous n'avons pas d'amour pour quelqu'un, en général, nous nous contentons de sa partie aimable. Nous aimons ce qui chez lui est aimable. Mais lorsque nous sommes animés d'un amour agapé, nous essayons de découvrir chez lui ce qui fait sa propre personnalité. Eh bien, cet exemple de la langue nous rend attentif au fait que la totalité n'existe qu'à la condition de considérer que la vie serait arrêtée, qu'elle serait figée, qu'il n'y aurait plus rien à découvrir, que tout aurait déjà été exploré, que tout aurait déjà été inventé. Et l'amour permet de briser cela. L'amour brise l'idée de totalité en nous faisant découvrir le caractère non pas fini de la vie, mais le caractère infini. Essayez, vous les jeunes, de vous mettre à la place de vos parents et de vos grands-parents, qui étaient à votre place précisément il y a quelques années. Et voyez ce qu'ils sont devenus maintenant. Ils étaient exactement comme vous, avec les potentialités et les défauts. Et ils sont devenus ce que vous connaissez. Et ils n'ont pas cessé de grandir. Ils n'ont pas cessé de se métamorphoser. Et bien cela est vrai pour vous aussi. Et cela se fait précisément parce que nous avons conscience que nous ne sommes pas des êtres finis. Et si nous voulons garder la relation avec des êtres infinis, c'est en vertu de l'amour que cela devient possible. Parce que l'amour ne s'arrête pas à une image figée, à une image de départ. L'amour nous permet de conserver le lien avec des personnes vivantes, avec des personnes qui évoluent. Et du coup, l'idée que nous faisons de ces personnes va évoluer au rythme de leur évolution. L'amour nous permet d'intuitionner l'infini. L'amour nous permet de prendre conscience du caractère non achevé des personnes ou des projets. Et l'amour, c'est aussi une action infinie. Et j'insiste sur le terme action. Car bien souvent, on pense que l'amour est un sentiment. Un sentiment dégoulonnant de générosité, de passion. Mais dans le texte de l'apôtre Paul, ce sont des verbes qui qualifie l'agapé. En dépit de nos traductions qui font penser parfois qu'il s'agit de décrire une sorte d'état amoureux, ce sont à chaque fois des verbes. Par exemple, en fait, le texte grec ne dit pas que l'amour est patient, on dit que l'amour patiente. Ainsi, l'amour, parce qu'il est qualifié par des verbes, est quelque chose de dynamique. L'amour, c'est agir. Et nous le comprenons bien quand nous méditons cette fameuse parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Surtout que c'est précisé par le fait que tu aimeras aussi tes ennemis. Et là, on sent que c'est du travail. On sent que ce n'est pas simplement une sorte de disposition intérieure qui nous ferait apprécier les bons côtés de tel ou tel. Non, aimer dans ce cas, c'est prendre soin. C'est jour après jour prodiguer à l'autre les soins nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse être un peu plus humain, pour qu'il puisse devenir adulte. L'amour nous oriente vers l'infini. L'amour, c'est ce qui permet à l'autre de ne pas être enfermé définitivement sous une étiquette. Cela nous conduit au deuxième aspect. Non seulement l'amour nous maintient vivants, contrairement au totalitarisme qui fige, mais l'amour libère là où le totalitarisme le rend dépendant. Je reviens sur cette histoire de donner sa fortune, toute sa fortune aux affamés. Comment pourrait-on imaginer que ce n'est pas une bonne chose? Eh bien, par le fait que cela pourrait mettre cette personne en situation de dépendance. Aider quelqu'un, c'est l'aider à devenir libre. Quand vos professeurs vous aident sur le plan scolaire, ils vous aident à penser par vous-même. Ils vous donnent certes des savoirs, mais ils vous apprennent à utiliser ces savoirs pour penser par vous-même, pour trouver le résultat par vous-même. Il vous donne la grammaire et les mots pour pouvoir ensuite vous exprimez par vous-même sans avoir besoin de citer en permanence des personnes. Et bien, c'est vrai aussi sur le plan de l'entraide plus matérielle. Plutôt que nourrir seulement quelqu'un, il peut être avantageux de lui enseigner à se nourrir pour qu'il ne dépende pas exclusivement de nous. De manière générale, il est toujours plus précieux d'enseigner l'art de vivre que de faire vivre. Et c'est cela que l'amour accomplit, dans la mesure où l'amour relève de la grâce. Cet agapé, dont je disais qu'il est un amour qui donne à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir. Il le fait sans espoir de retour sur investissement. L'amour donne sans échange. Ce n'est pas une logique de l'équivalence. Ce n'est pas « je t'appelle le jour de ton anniversaire » dans l'espoir qu'ensuite tu m'invites toi-même à ton anniversaire. L'amour agapé, l'apôtre Paul le dit bien, ne cherche pas son propre intérêt. Il ne cherche pas à obtenir quelque chose en échange. Et du coup, il ne fait pas de l'autre un être dépendant. Nous ne lui donnons pas quelque chose pour qu'il y ait une dette à honorer et à rembourser un jour. Et surtout, il lui donne les moyens de pouvoir ensuite mener sa propre vie. L'agapé, c'est ce qui évite, par exemple, que ce que nous faisons devait d'une manière nous justifier, ou de tirer quelques lettres de noblesse, par exemple, de regarder, je nourris 20 personnes, ça montre que je suis quelqu'un de bien. En fait, les choses sont à l'envers, c'est parce que je suis animé par l'amour que je vais nourrir ces personnes, mais sans chercher à en tirer quelque gloire. Voilà pourquoi aussi le droit des femmes à travailler, ce qui leur permet de ne pas être dépendantes de leur conjoint, relève de l'amour et de la grâce. C'est un acte d'amour éminemment important pour éviter qu'une partie de la population soit dépendante d'une autre partie. Sans amour, ce que nous faisons peut devenir cruel, même si au départ cela semble généreux. Par exemple, cette histoire de soulever les montagnes. Supposons que nous ayons une foi à soulever les montagnes. Que se passerait-il sans amour? Eh bien, il se pourrait bien que nous les fassions retomber sur le point de la figure du premier venu. L'amour, c'est ce qui va nous permettre de prendre soin de l'autre. L'amour qui rend service, dit le texte, qui ne s'enfle pas d'orgueil, respecte celui ou celle à qui une action est destinée. C'est une façon de veiller à ne pas écraser l'autre par ce que nous faisons. Et des fois, il nous arrive d'écraser l'autre en lui rendant service. Parce qu'il ne sait plus où se mettre. Parce que nous prenons toute la place. Parce que nous vivons à sa place. Et cela est vraiment particulier quand nous éduquons nos enfants. C'est la raison pour laquelle, en tant que parents, nous essayons de ne pas faire de devoir à notre place. Parce que vous comprenez bien que si nous faisons tout à votre place, alors le jour où vous serez face à un vrai devoir, eh bien vous n'aurez pas encore expérimenté la manière de réussir ce devoir. Vous vous trouverez fort démuni, bien plus que la cigale. Il y a des moments où notre générosité peut être écrasante. Eh bien, l'amour agapé, qui s'intéresse à chacun en particulier et respecte chacun en lui donnant les moyens de s'épanouir individuellement, évite autant que possible ces situations-là. Que de crimes commis au nom du bonheur du plus grand nombre. Que de crimes commis parce que nous savons mieux que l'autre ce dont il a besoin. Fut un temps, mes chers amis, tout à fait la liberté de choisir votre conjoint. On vous disait qui épouser. Ce n'est pas forcément un malheur. Mais avouez que vous auriez du mal à revenir à ce temps où finalement, d'autres que vous étaient responsables de votre propre bonheur et que vous n'aviez pas tout à fait votre mot à dire. Alors vous me direz, peut-être est-ce encore vrai aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous avons entendu lors du baptême? Que dans une certaine mesure, Louise n'avait pas trop le choix. Et c'est vrai, elle n'a rien demandé au sujet du baptême. Mais la vérité est que ce baptême ne dit pas qu'elle est condamnée à être non seulement croyante, mais aussi chrétienne et en plus protestante. Ce baptême dit que ses parents, dès son plus jeune âge, se sont suffisamment intéressés à elle pour lui donner tout ce qui lui est nécessaire pour s'épanouir dans toutes les dimensions de sa vie. On lui propose, elle disposera, et voyez maintenant comme elle babille gentiment. L'amour peut concerner aussi bien les personnes que les choses ou les disciplines. Pensons à l'amour des mathématiques, par exemple. L'amour des mathématiques. Eh bien, vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre deux élèves qui, face à une discipline, auront de l'amour ou pas. Et je vous fais plus, je n'oublie pas que les mathématiques, ça veut dire rêver des mathématiques. Ça ne veut pas dire que vous n'avez que les mathématiques sur les bords des lèvres et que vous envoyez dans tous vos petits textos et sur WhatsApp des formules mathématiques. Il ne s'agit pas d'être complètement redingue. Aimer les mathématiques, c'est s'intéresser aux mathématiques autrement qu'en cherchant son propre intérêt, si je reprends la formule de l'apôtre Paul. C'est-à-dire s'intéresser aux mathématiques, pas simplement pour avoir des bonnes notes. S'intéresser aux mathématiques, aimer les mathématiques par grâce seule. Est-ce seulement possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Cela signifie qu'on s'y intéresse aussi sans rien faire de malhonnête, sans anti-sèche. On s'intéresse aux mathématiques, on aime les mathématiques, non pas en se contentant de faire les devoirs qui ont été donnés, mais en cherchant le sens que cela peut porter. S'intéresser à une discipline, non pas parce que nous la subissons, parce que nous savons qu'il faut absolument avoir de bons résultats, mais s'intéresser à une discipline parce qu'elle est porteuse de sens et de vérité. C'est-à-dire retrouver l'esprit d'une discipline plutôt que d'être enfermé dans la lettre et de dépendre de cette lettre-là. S'intéresser aux découvertes en mathématiques, s'intéresser aux nouveaux théorèmes qui nous seront utiles pour mieux comprendre la vie et du coup être plus à l'aise dans la vie. C'est parce qu'on sait calculer une surface que le moment venu, nous savons quelle est la quantité de peinture nécessaire pour repeindre les murs de notre appartement. Et ça, ça arrange bien les choses. Parce que si on confond la surface avec le volume, on peut avoir quelques déconvenues. Sans amour, les mathématiques, et en fait les autres disciplines, ne seraient qu'une liste morne de choses à savoir par cœur qui encombrerait notre vie, qui nous embarrasserait au lieu de nous faciliter la vie. Avec amour, avec cette agapé qui nous relie à la vie, nous cherchons le sens des choses, nous donnons du sens à ce que nous apprenons et nous approchons du coup un peu plus de la vie authentique. Ne plus voir simplement la vie à travers les lunettes sales, toute cette saleté que nous accumulons, toutes ces informations qui n'ont aucun sens et que nous ne savons pas utiliser et qui encombrent notre vie. Mais poursuivre notre route sur les chemins de la connaissance, parce que tout cela fait sens, justement. Exercer notre curiosité. Continuer à découvrir de nouveaux aspects de l'existence. Ne pas laisser la vie nous filer entre les doigts. Si l'amour est la plus grande des vertus chrétiennes. C'est parce que l'amour a ce secret de nous rendre infiniment plus libres. Infiniment plus libres que nous pourrions le penser de prime abord. Amen.